Lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement,
moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Dinamilo Apoya, shalom, assalam alaikum. Bonjour, nous sommes bel et bien au rendez-vous de ce mardi 22 août 2023 pour nous accompagner pendant près de 80 minutes, sinon 85, même au Club de la Presse, avoir à décrypter quelques titres de l'actualité assortis des commentaires des confrères à nos côtés. Le temps de vous saluer. Vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter cette émission sur les antennes de Canal FM dans Lomé et ses environs, mais également sur les antennes de toutes les radios partenaires de Dapaon à Néron, en passant par Bassar, Sokodé, à Takpamé, de par le monde entier. Les internautes qui parlent la technologie vibrent avec nous sur tous les continents grâce aux techniciens Thomas et Tech aussi d'Atevi, avec Jérôme Kodjo Akucha qui va arriver incessamment. Eh bien, le menu aujourd'hui, c'est mardi. Nous allons nous entretenir des traditions, de la culture, des sports, de l'excellence dans l'enseignement supérieur et puis des transports aériens avec ce qui a été fait hier quand le Togo est entré. L'État togolais est entré dans le capital de la compagnie panafricaine Askai dans le sens de consolider cette société qui rêve vraiment grand. C'est de tout ça que nous allons parler avec les confrères qui sont en train d'arriver. Juste le temps de partager cette pensée du jour que nous avons tout simplement extrait du psaume ou bien du répond du psaume de ce jour qui nous enseigne que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Encore une fois, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Nous ne voulons nullement vous évangéliser, mais avec les réalités que nous vivons, il est quand même important que nous nous ressourcions à la parole du Seigneur. Chacun ira par sa religion. Dieu donné mon choso korolakna, bonjour.
Mais très cher Sas, quel plaisir de te revoir, quel bonheur de te sentir fort, de te sentir gaillard, de te sentir en pleine vigueur.
Disons bonjour, que je retrouve ces qualités progressivement, en toute humilité.
Bah, physiquement déjà, pour ce que je vois, et je peux rassurer nos chers amis, auditeurs, auditrices de Radio Canal FM, mais je te vois en pleine forme et je ne peux que souhaiter le meilleur en allant au crescendo.
Merci, ça me fait plaisir, mais je ne te cache pas que j'aimerais plutôt qu'une femme me dise ça.
Bon,
pour la bonne humeur. Eh bien, donc, le répondre de ce somme de ce jour que je partage avec nous tous, à savoir nous rappeler que le Seigneur veut d'abord la paix pour son peuple et ses fidèles. Chacun va conjuguer cela à sa religion et à son livre saint.
Alors, nous vivons des temps qui cadrent bien avec cette pensée. Et point besoin de rentrer dans assez de détails. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans notre région ouest-africaine précisément, que ce soit quelque part en Russie ou en Ukraine, nous vivons des temps qui montrent que la paix reste un bien précieux. Malheureusement, il se trouve que beaucoup de peuples, il se trouve que beaucoup de citoyens du monde aujourd'hui sont sevrés de cette vertu, de cette valeur que reste la paix. Mais il se trouve que depuis les temps, les premiers temps de l'humanité, la paix était toujours chantée. Malheureusement, rarement, les comportements des humains vont dans le sens justement de ce que nous tous nous savons clamer.
C'est ça que l'histoire nous enseigne, malheureusement.
Malheureusement. Et malheureusement, nous traversons encore aujourd'hui des temps qui montrent que l'homme a beau psalmodier la paix, l'homme a beau chanter, l'homme a beau louer la paix, rarement nos actions ne vont pas malheureusement dans le sens de ce que nous savons professer et chanter. C'est bien triste, mais nous pouvons toujours nous accrocher à cette parole de Dieu. C'est des paroles qui donnent beaucoup d'espoir et vivre, c'est sérieusement espérer.
Merci. La paix est menacée un peu partout chez nous ici en Afrique avec le terrorisme, tout ce qui se passe au Sahel et qui vient dangereusement nous inquiéter dans notre quiétude, dans nos paix nationales, même les pays côtiers. Tu es remonté jusqu'à l'Ukraine et puis différentes parties du monde. Même la Terre Sainte, la seule Terre Sainte de la Palestine ou d'Israël, qui a vu Dieu se révéler par trois fois, la terre sur laquelle les trois religions monothéistes révélées sont nées, à savoir les Juifs, les chrétiens et l'islam. C'est cette terre-là avec pour symbole Jérusalem, la ville trois fois sainte, qui est le symbole même de cette paix perpétuellement menacée.
Ben, c'est ce que je dis. Même cette terre que tu évoques, qui malheureusement n'est même pas à l'abri justement des soubresauts, des turpitudes qui agitent un peu partout le monde. La religion elle-même, qui est censée justement nous unir, qui est censée nous rapprocher, et qui est censée rapprocher nos cœurs, comme nos esprits, malheureusement, au nom de cette religion aussi. Et vous savez tout ce qui se passe, parce que justement, qu'on aille chercher loin, jusqu'à la Terre Sainte, ou comme tout à côté de nous, avec des pseudo-revendications de certains groupes qui nous menacent effectivement et qui descendent, qui mettent la pression sur nos pays côtiers, eh bien, mais il y a toujours Dieu en couverture. On essaye de mettre le plus haut en couverture. Et là, toute la question se pose. Je le dis, je le répète, nous tous, nous le chantons, nous tous, nous clamons la paix, la paix, la paix, mais quels sont véritablement les actes que nous posons? C'est à interroger.
Merci. C'est véritablement merci. Ça me rappelle
à interroger.
Dans les années 1980, au plus fort de l'animation politique, célébrer Gnassingbé Adéma, il y avait une chanson d'un groupe choc d'animation qui disait ceci: « Oh Dieu, la paix dans le monde, en Afrique et au Togo ». Il n'est jamais superfétatoire de rappeler, de nous exhorter à œuvrer pour la paix.
Alors, que veut dire la paix, par exemple, dans un monde où beaucoup d'hommes, beaucoup de leaders continuent par clamer en même temps que les enjeux d'un État, ce sont ses intérêts? les vrais enjeux de tout État, c'est les intérêts. Alors la question se pose, on a beau chanter, on a beau, mais j'ai l'impression, j'ai l'intime conviction que nos actes nous prennent en porte-à-faux par rapport à tout ce que
merci, nous avons... Merci beaucoup. Alors de la paix, cette paix menacée d'abord par les politiques, hein, il y a d'abord le terrorisme hein, en Afrique de l'Ouest, et puis ces séries de coups d'État ces dernières années, 6 coups d'État hein, dans 4 pays, par 2 fois au Mali, hein, par 2 fois au Burkina Faso, une fois en Guinée-Conakry, et le dernier coup d'État hein, qui fait vraiment, qui tient l'actualité depuis près d'un mois, c'est le Niger, et ce Niger où les militaires du général Tchiani consolident chaque jour un peu plus leur pouvoir. Ils viennent de nommer un premier ministre qui a formé un gouvernement. Le chef de la junte a fait une déclaration il y a quelques jours allant dans le sens d'une transition de 3 ans pour mener un dialogue avant de passer le pouvoir éventuellement aux civils. Et position de la junte au Niger qui ne passe pas du tout auprès de la CDAO. La CDAO hein, qui est plutôt dans la dynamique hein, d'alerter des forces en attente pour aller restaurer le président déchu, Mohamed Bazoum, au pouvoir. Alors, sur la position des putschistes au Mali, le confrère Mega Info titrait hier que le protocole additionnel de la CDAO exclut toute transition forcée hein, par les militaires. Sur la position de la CDAO, un peu plus tôt, quelle position devrait-on adopter vis-à-vis de ces putschistes au Mali? Ton journal Togo Matin écrivait hier, crise au Niger, Fornia Singbe fait encore la différence. Et dans un peu dans ce sens, aujourd'hui, c'est le confrère, le médium qui écrit diplomatie CDAO au Niger, Fornia Singbe, un bien précieux pour la CDAO. Voilà les positions, la question que les gens se posent. Est-ce que nous tous, unanimement, nous condamnons les coups d'État dans le monde et dans la sous-région ouest-africaine, mais est-ce qu'il faut aller déloger par les armes les putschistes et réinstaller Bazoum au pouvoir? Ou bien est-ce qu'il faut arriver à cette même fin, FIIN, par des voies de la diplomatie?
Mais la voie de la diplomatie reste la voie d'or, pour paraphraser la dalle. Enfin, mais, alors, cette crise, il faut l'appeler crise, cette crise au Niger amène à se poser énormément de questions. D'un côté, la question de nos institutions régionales, des institutions d'intégration comme la CEDEAO. Alors, quelle est leur place, quelle est leur force, quelle est leur importance aujourd'hui et par rapport à nos réalités? Alors, se poser la question par rapport justement à nos institutions d'intégration, c'est poser la question justement des principes qui ont gouverné leur naissance, leur avènement. La CEDEAO a vu le monde, a vu le jour, pardon, en 1975, si je ne me trompe.
Il y a déjà 48 ans.
Alors, mais les réalités du monde, les réalités de la sous-région en 1975 ne sont pas du tout les réalités du 21e siècle, ne sont pas du tout les réalités de 2021, 2020, des années 2000. Ça, on est bien d'accord. Après, il y a tous les tests que la CEDEAO, l'organisation, a réussi à prendre, etc. C'est très bien. Le confrère, Mega Info, parlait justement du protocole additionnel, etc. Mais, alors, dans un espace où il y a autant de coups d'État
en quelques années,
mais il faut bien se poser des questions. Tu le disais tout à l'heure, mais qui? Personne ne fait l'apologie, personne ne soutient les coups d'État. Non. Mais sauf que justement, quand ça se passe à répétition, mais il y a matière à se poser des questions. Et justement, c'est des faits qui intéressent les scientifiques. Mais pourquoi ça se passe de façon répétitive? Quelles sont les véritables causes? Quelles sont les véritables causes? Alors, vous savez, la RAC a fait une sortie hier qui nous interpelle.
De la communication.
Et évitons de donner des leçons. Nous sommes journalistes, nous ne sommes que, hein, j'ai bien envie de dire que nous ne sommes que des journalistes. D'accord ? Loin de nous l'idée de donner, mais il y a tellement de questions à se poser. Alors, justement, et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une vraie frissure. Il y a une vraie brisure au sein de la CEDEAO qui s'affiche. Et ça, et tout le monde le voit. D'un côté, justement, les tenants de la voix forte. Et de l'autre côté, les tenants, justement, de la modération ou de la voix diplomatique. Et je crois bien les événements nous démontrent que quand un chef d'État comme Faure Gnassingbé, dans le cas ivoiro-malien, a réussi justement à travers la pondérance, à travers la modestie, à travers la discrétion, à résoudre un problème. Mais si quelqu'un comme ça, avec toute l'expérience qu'il a, d'ailleurs même, n'oublions pas que quelqu'un l'appelle le jeune doyen, si quelqu'un de cette trempe dit, alors allons-y par la voie de la diplomatie. Je pense que quand même, ça mérite d'être écouté.
Merci, merci beaucoup. Les positions sont très partagées, même entre les États membres de la CEDEAO. Et que dit des religieux du Togo ou un peu d'autres pays de la sous-région, même des parlementaires au Nigeria, au Sénégal, l'opinion publique, la société civile, tout le monde par le droit de la libre expression de la parole qui interpelle les chefs d'État. Nous faisons confiance à nos chefs d'État que le bon sens va prévaloir et que cette crise au Niger se résolve par l'intelligence, par la sagesse et par la force de nos institutions. Il vient de nous rejoindre habillé comme s'il allait nommer ministre. Lui, c'est Hugues Eric Pacoudo Johnson. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour Dieudonné, bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM. Mes excuses pour ce retard.
Oui, tu m'as dit que tu t'es retenu quelque part. Je connais ta ponctualité au club là-bas.
Merci beaucoup. Merci
je t'en prie. Eh bien, maintenant que tu es là, nous allons ouvrir. Alors, nous allons continuer.
Je voudrais dire un petit mot.
Alors, juste une minute.
Ce qui se passe au Niger. Vous savez, Dieudonné a déjà planté le décor en disant que aujourd'hui il y a des coups d'État à répétition dans la sous-région et cela doit forcément nous amener à nous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est pas le moment pour nous autres citoyens de la sous-région de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, de faire une réflexion approfondie sur notre manière de faire la démocratie. Est-ce que la démocratie telle que nous l'avons adoptée aujourd'hui ne nous crée pas plus de problèmes que nous apporte de solutions? Je pense que fondamentalement, nous sommes en train d'aller vers des régimes encore plus durs dans la sous-région. Régime dur en ce sens où, au lieu d'avoir des civils à la tête de nos pays, ce sont des militaires qui reprennent la gestion de nos pays. Est-ce que c'est c'est pas un retour à la source? Si nous interrogeons un peu l'histoire, nous constatons que oui, les empires, les empires africains avaient aussi des hauts et des bas.
Oui.
Et donc, quand nous adoptons la démocratie telle que cela nous a été imposé, je dis imposé parce que, autrement dit, nous avons aussi nos valeurs, nous avons aussi nos méthodes de gestion de nos sociétés. Mais subitement, nous adoptons la démocratie. Ça nous a été imposé. Et c'est les intellectuels africains eux-mêmes qui ont dit voilà le modèle qui va nous amener vers le développement. Mais aujourd'hui, avec cette situation, est-ce que réellement cette démocratie telle que nous la pratiquons nous amène le développement? Est-ce que ce n'est pas un retour à la source? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter un moment pour repenser un peu notre démocratie et l'adapter à notre façon de gérer les choses? Sinon, la vieille hein, marmite qui était toujours là.
Merci, tous citoyens que nous sommes, si fiers hein, de, que nous sommes, nous devrons chacun, individuellement, collectivement, nous poser des questions, mais rechercher dans notre sagesse hein, la voie de gérer ces crises et surtout les prévenir hein, chez nous ici au Togo, hein, que chaque Togolais soit vraiment, vraiment, vraiment à l'aise hein, dans ce pays que nos ancêtres rêvaient lors de l'humanité.
Et justement, il faudrait qu'on anticipe, parce que, autrement dit, ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui. Et personne n'est à l'abri. Et donc, il faut véritablement une forte réflexion que les intellectuels, que l'élite africaine se réveille pour dire « Attention, nous sommes en train d'aller quelque part où nous ne voudrons pas
amener. » Merci. Rassurez-vous, sur le coup de 12 heures, vous allez entrer en ligne avec nous hein, par les deux numéros qui n'ont pas changé, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Et maintenant, nous allons continuer par là où nous aurions dû commencer. C'est la première page des traditions, culture. Et nous allons enchaîner avec les sports. Eh bien, le week-end a été bien riche. Hein? Si vous étiez à Kévé, dans la V, vous avez sans doute suivi le festival du Tap-Tam, hein? Jumeaux parlants à Topani. Hein, des groupes de tam-tam à Topani venus de divers contrées hein, pour compétir. Ce fut beau, d'après ce qu'un témoin hein, m'a dit. Et puis, le feuilleton des fêtes traditionnelles qui a continué à se décliner, notamment la fête traditionnelle Hogbezan, qui rappelle l'exode des populations de la préfecture de Yoto, c'était à Tablikbo, le samedi dernier. Dans le même temps, dans le canton de Haute, dans le Vaud, c'était la fête traditionnelle Hogbezan, qui était à son apothéose. Et dans le Grand Lomé, ici, les populations Bé, à Flaou et à Gwenivé se sont retrouvées pour communier hein, dans la fête d'Ounegnozan. Et le week-end prochain, ça continue avec l'apothéose de la 37e édition de Adjinoukou. Adjinoukou, qui est la célébration de la terre nourricière et du génie culturel des populations de la préfecture de Vaud. Nous avions souhaité avoir un membre du comité d'organisation de Adjinoukouzan hein, pour nous en parler, mais malheureusement, il a été retenu par d'autres priorités. Et puis, ces fêtes passées à venir, notamment Eric Johnson, qui doit se préparer à nous accueillir pour bientôt la prise de la pierre sacrée qui va annoncer le nouvel an en pays Guin. Pendant que nos parents, également nos amis de Bassar Konkomba, se préparent à lancer de Pontre Nidak pour célébrer l'Ignam. Et puis le berceau hein, à Gbogbo, Ngochin, hein, va convier également tous les évêques du Togo et de la diaspora à ce retour pour Agbogbozan. Le festival des fêtes traditionnelles continue avec des visages des célébrations diverses. Monchoso?
Oui. Alors, il faut rendre hommage à toutes ces célébrations, ces célébrations solennelles, effectivement, parce que ça arrive une seule fois dans l'année. Et c'est important parce que ce sont des lieux de rencontre, ce sont des lieux de brassage, ce sont des lieux de rencontre qui, au-delà des fils et filles d'une même localité, aujourd'hui, il y a des curieux, des touristes qui viennent de très loin pour toucher du doigt ce qui se fait de mieux dans la culture, dans la tradition de l'autre. Et ça, c'est bien justement que ces événements soient d'une certaine manière médiatisés. Je me rappelle dernièrement lors des Evala, le débat autour de nous ici était entre autres de savoir comment est-ce qu'on peut travailler de sorte à donner de l'importance et de la consistance à toutes les célébrations traditionnelles de notre pays, de sorte que certaines cultures ou certaines traditions ne se sentent pas frustrées, offusquées par rapport, etc. D'accord. Donc, et moi, je suis vraiment de ceux qui pensent effectivement que nous devons faire en sorte, parce que tout à l'heure, même la pensée du jour portait sur la paix. Et quand une culture va à la rencontre d'une autre culture, vous savez, les passerelles qui se créent.
Le brassage
amène justement à la tolérance, à une certaine tolérance.
À la compréhension mutuelle.
Pourquoi est-ce que dans une telle tradition, la viande du chien est célébrée? Pourquoi est-ce que la viande, etc., est célébrée ailleurs? Pourquoi est-ce que le mil est célébré ici? Pourquoi est-ce que l'igname, etc., alors que chez moi, non? Il n'y a même pas de présence d'igname
chez toi,
dans les, etc.
Chez
donc,
toi?
Non, on en parlera. On en parlera en offre. Donc, alors, il est très important pour moi, et je le pense, c'est de vrais lieux de brassage qui peuvent nous amener à des valeurs de paix que nous devons travailler toujours à chanter, à cultiver, même si nous avons malheureusement, nous faisons le constat que les hommes, malheureusement...
Ces traditions contiennent des valeurs qui nous renforcent d'abord dans l'unité nationale, dans l'acceptation de l'autre. Et pourquoi pas, ça va inciter nos artistes à créer, les chanteurs, les écrivains, les philosophes, les cinéastes, les hommes de théâtre, tout est permis. Et puis, oui, Eric?
Oui, ça, je retiens une chose. Aujourd'hui, je pense que nous célébrons beaucoup de fêtes traditionnelles. Et la question est de savoir si réellement ces fêtes traditionnelles permettent de donner les valeurs ancestrales à la jeune génération, c'est-à-dire la transmission de ces valeurs-là à la jeune génération. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vrai, on parle de brassage, on parle de fêtes autour d'un symbole. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser surtout à la mise en place je ne sais comment je peux le nommer, mais de comités qui, tout de suite après les fêtes, reprend le flambeau pour ramener les fils et filles d'une même communauté à reprendre en main leur culture. Parce que, je dis, la culture pour nous, c'est la valeur que nous avons. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais on a reçu le chef d'Amoutivé ici la semaine dernière avec dans l'émission en minant, mais qui disait que ils veulent tout faire pour que la tradition se perpétue. La tradition se perpétue si les fils et filles de la même communauté arrivent à percevoir les choses de la même manière, à recevoir les mêmes éducations et à porter surtout les mêmes valeurs. C'est très important pour moi parce que une fois que les fêtes finissent, allez, on dit, bon, ok, à la prochaine, et on attend un an pour reprendre le flambeau. Mais je dis, il faut que l'organisation soit perpétuée tout au long de l'année avant l'apothéose.
Merci pour cette invitation aux communautés, pourquoi pas également aux artistes qui peuvent se révéler les véritables vecteurs de la conservation de ces valeurs. Pourquoi pas ne pas écrire des livres sur ces différentes fêtes traditionnelles, tourner des documentaires, pourquoi pas des films, écrire des pièces de théâtre, organiser des festivals où les valeurs de chaque peuple, de chaque région soient exaltées, mais surtout fixées. Si on écrit un livre, ce livre va durer peut-être 1 milliard d'années. Si on écrit un film, ce film pourra être vu de par le monde entier. On ne sera pas obligé de nous rassembler toujours à Vaughan pour suivre à Dinoukouzan, mais un peu partout, la diaspora de par le monde entier pourra vibrer avec nous. Invitation à nos amis artistes.
Pour apporter de l'eau à ton mot, l'un des grands mérites de ces célébrations, c'est la conservation. C'est l'aspect conservateur, justement, des traditions qui sont malheureusement pour certaines menacées d'extinction, sont menacées sérieusement de disparition. C'est pour ça que, mine de rien, ça a l'air parfois festif, tout simplement, au-delà de l'aspect bling-bling qu'on peut... Mais il y a des choses qu'on doit travailler à conserver. sinon, mais c'est carrément l'âme de nos peuples
traditionnels. Et nous continuons avec la culture, avec quelque chose qui est né depuis 2006 et qui devenait une tradition, qui a été mise à mal par la COVID, encore la funeste COVID. Il s'agit du festival des Lucioles Bleues, ou bien festival Fil Bleu, qui heureusement renaît, je dirais, de, enfin, pas de ses cendres, mais le Fil Bleu qui renaît pour sa 14e édition. Et c'est pas plus tard que l'année prochaine, en 2024. C'est oui. L'Union qui nous l'apprend, Eric. Oui,
et c'est les organisateurs qui ont annoncé cela pour le mois de mars 2024. Mm-hmm. Ce festival qui était né en 2006 et qui était au départ un festival de théâtre et des arts de la scène. Après, au fil des années, ça, il y a eu des mutations. C'était devenu le festival francophone de livres, des auteurs, etc. Mais aujourd'hui, c'est un festival de l'art, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a toutes les formes d'art au cours de ce festival. Et donc, c'est Kani Alem Diolo qui est le patron de ce festival-là, qui l'a annoncé, et que ce sera désormais du 16 au 20 mars 2024. Parce que en temps, on a arrêté à cause de la crise sanitaire que nous avons tous connue, Covid-19. Et donc, désormais, les organisateurs ont dit, bon, il faut y aller.
Merci. Montoso, quand on parle Fil Bleu, c'est que tu t'y connais.
Enfin, m'y connaître, c'est, je ne veux pas dire c'est prétentieux, mais j'ai la prétention de dire que j'en sais quelque chose. Mais, alors, ce festival, et ça permet de poser la question de la vie, de bien des festivals les plus importants à un moment donné dans l'histoire de la scène africaine que le Togo a connu. Et je voudrais saluer, rendre hommage aux organisateurs. Il est vrai que Kani Alem, c'est le porte-étendard avec tout son aura et son nom. Mais il y a un certain Syriac Nousoglo, ils sont nombreux à travailler au fil des années. Il faut leur rendre hommage. Vous savez, le mérite de ce festival, le vrai, c'est de faire figure de résistance. C'est important dans le domaine, justement, des lieux comme ça qui promeuvent la culture et l'art en Afrique. C'est l'un des festivals où vous avez l'impression à un moment donné que, bon, comme la plupart des festivals, a finalement mis la clé sous le paillasson, mais qui renaît toujours et qui rebondit. Et ça, vraiment, moi, quand j'ai vu l'annonce, justement, j'ai lu l'annonce dans le journal L'Union de ce jour, posez-vous la question, qu'est devenu le Festef, par exemple, l'une des plus grandes scènes théâtrales en Afrique, dans les années 2000, à l'époque. Il faut lui rendre hommage. Aujourd'hui, on lui connaît notre casquette, mais il était un homme sérieusement culturel. Qu'est devenu Éolé, l'un des plus importants festivals des arts plastiques en Afrique, avec Kossi Assou, aujourd'hui un peu caché dans son djassem, qu'il aime beaucoup. Mais il a existé au Togo d'importants rendez-vous culturels comme ça aujourd'hui, dont on n'entend plus parler, mais qu'on le veuille ou non, c'est des événements qui appartiennent en fait à notre patrimoine. Et si un travail peut se faire pour en quelque sorte restaurer et réhabiliter ces événements, je pense que ce serait...
Merci, l'occasion pour nous d'en appeler aux mécènes d'accompagner ces initiatives culturelles. Quand vous suivez l'actualité, c'est la pleine saison des festivals en France. Festival d'Avignon, festival d'Angoulême, festival de ceci, festival de cela, et tous les arts y passent. Le cinéma, la bande dessinée, le théâtre, les chants chorales, tout y passe. Nous ne le rappelons jamais assez, mais ce sont ces occasions qui fixent la culture, la culture de l'homme. Et c'est ce qui fait que le français a une mentalité, un comportement, l'anglais a son raisonnement, l'allemand a ses réflexes, l'américain ainsi, le chinois, le japonais, le coréen, alors également l'africain, le ghanéen devrait avoir une culture, le sénégalais, le togolais, le béninois, le camerounais, ainsi de suite. C'est des choses sur lesquelles nous ne mettons pas suffisamment l'accent, aussi bien au niveau des États que nous-mêmes, les médias et toute la société. Eric.
Oui, ça, je ne sais pas si nous avons tous la même idée sur ce que constituent ces festivals-là. Et Dieudonné vient de me rappeler encore de très beaux souvenirs hein, sur le Festef, sur Ewele. Et j'avoue que en ces périodes-là, ça, il était difficile pour nous hein, qui aimons un peu ce qu'on appelle la culture en général, de rester sur place et de ne pas suivre hein, dans tous les sens ce qui animait ces festivals-là. C'est dire que, par exemple, avec Aïda Dani, mais j'ai eu à échanger sur ces idées qui nourrissaient pour le Festef. Ce festival-là, qui s'est éteint parce que le promoteur n'étant plus sur place, c'est vraiment très douloureux pour nous. Et où elle est? Mais Kossiassou, il vit toujours. Sauf qu'il n'a plus les moyens d'organiser ce festival-là qui représentait parfaitement tout ce que nous sommes hein, en tant que citoyens togolais. Quand ce festival-là s'ouvrait, mais je ne sais pas ça, ce que je ressens aujourd'hui est très fort. Je dis aujourd'hui ce que nous devons faire. C'est vrai qu'il y a un fonds d'aide à la culture que l'État togolais a mis en place. Toujours est-il que ce fonds d'aide, je ne sais pas si il prend en compte ces festivals-là. Parce que personne ne peut organiser un festival sinon les moyens. Mm-hmm. Et donc, c'est les moyens qui manquent et ces festivals-là s'éteignent. Merci.
Si les festivals ont des problèmes, on sent quand même que d'autres initiatives nées il y a quelques années continuent à prospérer. D'abord, les élections mises un peu partout. Et depuis quelques années, c'est les différents festivals de mode. Hein, vous ouvrez la TVT, c'est un festival de mode ici. C'est bien aussi, mais retournons à également ce qui était un peu plus ancien. Eric, si je dis Molière, tu te rappelles la phrase célèbre qui lui est attribuée, à savoir « corriger les mœurs en rien ». Ça nous introduit à cet article de ton journal L'Union qui nous parle d'humour avec un spectacle que notre ami humoriste Abawé nous organise. Ce sera le 9 septembre prochain. Ce sera quelque part dans une banlieue de la ville de Lomé.
Oui, à la résidence Loria à Venou. Donc, ce jeune humoriste qui est juriste et gestionnaire des ressources humaines de formation a tout abandonné hein, pour l'humour.
Et par passion pour les arts.
C'est sa passion. Je l'ai connu à la TV2 pendant que ma structure organisait un jeu et de culture également, de culture générale, SMSQs. Et je l'ai connu et il venait, il dit « Bon, je vais vous faire rire, je vais dire ceci. » Dès qu'il entrait, tout le monde rigolait parce qu'il avait toujours quelque chose à vous dire hein, pour amuser la galerie. Donc, ce jeune-là, aujourd'hui, je pense qu'il veut faire véritablement carrière hein, dans son art. Et je crois qu'il est à sa deuxième édition hein, de ce spectacle-là. Donc, tout ce que je peux demander au public togolais, c'est d'aller regarder ce spectacle parce qu'on a forcément besoin de rire, hein, pour se déstresser, décompresser un peu, hein, par rapport aux pressions de la vie et les stress de tous les jours. Donc je demande au public d'aller véritablement soutenir ce jeune-là, parce que ce qu'il fait est merveilleux, mais si nous voulons le voir grandir davantage, il a besoin de notre soutien.
Ce sera le 9 septembre. Et parlant du mot, comment ne pas faire un clin d'œil à Gbadamassi, qui s'organise pour revivre, nous faire revivre le concert de Banze Party, qui avait beaucoup donné du plaisir à nos parents, à nos années, à nos aînés, oui, oui, dans les années 60, 70, 80, qui a connu des vedettes comme Aze Kokovina, comme Koku Vito, comme bien d'autres, vous m'excusez si je ne les cite pas tous, mais tout ça également participe à la culture.
Mais quand tu parles de Gbadamassi, mon cher Sass, tu ne sais pas si bien dire, parce que Gbadamassi, en tout cas pour les critiques dans le domaine de l'art, du théâtre plus précisément, c'est une figure qu'il faut suivre et analyser. Il faut analyser son parcours. Parce que Gbadamassi aujourd'hui s'inscrit dans un autre registre de, si on peut dire, l'humour. Parce que le concept parti à proprement parler, c'est une esthétique, mais est-ce qu'on peut vraiment le mettre, le catégoriser comme humour? C'est une grande question. Gbadamassi a quitté un terrain en tant qu'humoriste connu, avec son duo avec Ogoligo, etc. Aujourd'hui, il est retourné carrément sur les bancs, enfin, c'est abusé un peu de le dire, mais il est allé apprendre à l'université. Il a réussi à obtenir un diplôme de master dans le domaine des études théâtrales. Et nous autres, on est passés aussi par là, sauf qu'on n'a jamais joué, nous autres, etc. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, le fait pour Gbadamassi de décider de faire revenir sur la scène le concert parti, c'est une démarche tout trouvée. On parlait justement des risques d'insection ou de disparition de certaines traditions aujourd'hui. C'est important de souligner ça, c'est facile d'enchaîner les deux. Combien la tradition peut inspirer et nourrir l'art et la culture. La culture et l'art sont tout le temps dynamiques. La tradition reste la tradition. Elle mérite d'être conservée. Mais la culture va toujours, l'art va toujours puiser dans la tradition.
Merci. C'est très important de le mot, le concept parti, saluer notre cher Toguata Apedo Ama,
le spécialiste des spécialistes,
qui consacre des études depuis des années, qui fait des recherches et publie des livres, aussi bien des romans que des pièces de théâtre sur le théâtre populaire. Sans transition, allons au sport. Nous ne sommes pas encore à la fin de cette émission, mais je vous invite à célébrer une grande valeur du continent africain et à lui décerner un carton tout en or. Lui, c'est Hugues Fabrice Zongo. C'est cet athlète du Burkina Faso et qui a fait remporter à son pays, le Burkina Faso, et à tout le continent africain, la toute première médaille d'or des championnats du monde d'athlétisme. C'était hier à Budapest, en Hongrie. Hugues Fabrice Zongo, qui a fait un bond de 17,64 mètres au triple saut. C'est la première médaille en or pour tout le continent africain dans cette discipline. Je ne sais pas, Montchoso. Je ne sais pas si tu t'es une fois essayé au triple saut.
Jamais. Mais bon.
Disons pas encore.
Je rêve.
Eh bien, toi et Maxime Akapo, avec votre ventre là, on va vous mettre à l'entraînement pour le triple saut. Oui, mon chasseur.
Non, mais il faut célébrer, il faut rendre hommage à nos ambassadeurs, que ce soit dans le domaine, on parlait de la culture, dans le domaine des sports, il faut. Et surtout, quand un pays comme le Burkina Faso est sous toutes les lumières de l'actualité aujourd'hui, pour ce que nous savons, des lumières malheureusement ternes et tristes un peu, mais un athlète comme ça, qui va à un championnat
du monde
sérieusement suivi et qui décroche une telle distinction, vous savez, on ne peut pas imaginer tout ce qu'il apporte à son pays. Un pays sur lequel certains regardent des regards, en tout cas, tout dépend du côté où on se trouve, sont posés aujourd'hui. Des regards qui ont tendance à discriminer les nouvelles autorités, etc., etc. Et tout ça a un lien, et ça rejoint un peu ce qu'on se disait au tout début de l'émission ici. C'est très très important, ce sont nos véritables ambassadeurs, nos artistes, nos athlètes. Et les occasions comme justement celle-là montrent combien ils sont très très importants pour notre
pays. Tu as tout dit, ce sont nos véritables ambassadeurs. Et je me rappelle comment la tenniswoman Anse Jabeur a été nommée la ministre du bonheur par ses compatriotes en Tunisie. Et quand on cite des noms comme le Sénégalais Sané, Sadio Mané, ce qu'il représente pour le Sénégal aujourd'hui.
Et pour son village d'ailleurs, le village
tout le pays, ce que représentait pour nous un certain Kaolo, un certain Adebayo. Et puis, aux Jeux Olympiques de Pékin en 88, comment Benjamin Boukweti a propulsé le Togo sur la scène mondiale, hein, même s'il n'avait remporté que la médaille de bronze dans une discipline bizarre que beaucoup de Togolais avaient découverte pour la première fois, le canoë-kayak. C'est pour dire, Eric, on a commencé à parler des artistes, mais les sportifs, et comme le disait si bien Montoso, ce sont là les véritables ambassadeurs, parce qu'ils ont le mérite et le privilège de faire l'unanimité autour de leur personne, autour de leur pratique.
Et ça, au-delà des chaînes de télé et de radio que les gens amènent chez nous pour faire leur propagande, pour faire leur communication, ils mettent aussi en avant leurs artistes, leurs sportifs. Et aujourd'hui, quand vous allez dans la rue, vous dites Cristiano Ronaldo, vous allez voir des jeunes qui vont commencer par vous parler de Cristiano Ronaldo. Quand vous dites Benzema, oui. Mais lorsque vous appelez le nom d'un sportif, d'un joueur togolais, c'est à peine que ces enfants-là répondent. Peut-être, on parle de Boupessi, oui. En son temps,
Boupetti,
Benjamin Boupetti, oui. En son temps, oui, quand il a eu la médaille de bronze, on a beaucoup parlé de lui. Mais aujourd'hui, il est devenu coach des jeunes qui veulent faire le canoë-kayak. Et donc,
canoë-kayak.
Kayak. Il s'entraîne à Baudrafort là-bas, sur le lac. Mais je dis, il faudrait que nos politiques comprennent que il faut soutenir les artistes et les sportifs pour qu'ils aillent de l'avant. Et pour le faire, il faut mettre en place des structures. Vous savez, peut-être je vais prêcher dans ma chapelle en parlant de Swallows. Hein, Swallows qui...
L'Académie Swallows.
Oui, l'Académie Swallows qui aujourd'hui forme les jeunes aussi bien dans le domaine sportif que dans leurs études. Mais je dis, c'est des structures qui coûtent extrêmement cher. N'eût été la vigilance ou le bon vouloir d'un monsieur que nous apprécions tous.
Un mécène.
Oui, qui découvre des talents dans le quartier Ridjanaoué. Mais c'est des jeunes qui sont peut-être des sans-abri, mais qui l'a pris chez eux, qui nourrit. Et ces enfants-là, parmi eux, on vient de découvrir un talent qui joue déjà à l'équipe nationale Espoir. Donc, c'est dire que nous pouvons faire de notre pays une référence dans le monde en investissant dans l'art, dans la culture et dans le sport. C'est très important aujourd'hui. Hein, parce que beaucoup de pays aujourd'hui, quand ils veulent faire un peu de démocratie, ils envoient leurs ambassadeurs, qui sont les sportifs et les artistes. Donc, je crois que ça, on a besoin de soutenir ces structures-là qui aident les jeunes enfants à
prospérer. Merci. L'occasion encore de rappeler au plus fort de la guerre civile en Côte d'Ivoire, vous rappelez ce que Didier Drogba et ses camarades joueurs professionnels de football ont pu apporter comme un message, adoucir un peu, les ventes en guerre. Mmh. Vivement. Il y a longtemps que Adebayo a pris sa retraite. nous avons besoin quand même d'un successeur à citer aux côtés des Sadio Mané et Mohamed Salah.
Adebayo, il a pris sa retraite, mais il continue par vendre le Togo. Hein.
Son nom reste
quand même dans... Non,
il reste une valeur sûre. Oui. Mais nous avons besoin quand même si ça sert sur la pelouse, d'autant plus que nos éperviers aussi bien de toute catégorie, hommes, dames, sont déjà dans des compétitions.
Parlons de ces véritables ambassadeurs, un exemple tout à côté, s'il n'est pas aussi loin, le Libéria, que serait George Weah
s'il n'avait pas fait
aujourd'hui, s'il n'était pas passé par le football. Que la question est là.
Oui.
Du terrain de pelouse jusqu'à ce sommet aujourd'hui. Donc on peut comprendre.
Merci,
ce que ça veut
toujours
dire.
Excellence. Maintenant, Montoso et Eric, nous montons d'un cran et nous allons à l'enseignement supérieur. Avec ce classement qui vient d'être établi, les universités, les meilleures universités du monde et d'Afrique. Ce classement fait par le site Unirank, qui a pignon sur rue, je présume, qui a une certaine crédibilité de par le monde. Ce site qui procède au classement des meilleures universités du monde et d'Afrique. Alors, ce classement, le dernier classement révèle que au Togo, il y a 4 universités qui répondent grosso modo aux critères du classement Unirank. Elles ont pour nom l'Université de Lomé, l'Université de Kara, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire du Togo, UKAO, UUT, et également l'Université des sciences et technologies du Togo, USTT. Ce sont ces 4 universités du Togo qui répondent aux critères de classement Unirank, mais c'est seulement l'Université de Lomé qui s'en est sortie avec un classement de 136e sur 200.
Sur 200. 131e.
131e, pardon.
Oui. Okay. Chaque année, le site Unirank fait un classement des universités du monde, tu l'as déjà dit, et également des universités africaines. Mais jusqu'à l'année dernière, aucune université togolaise n'était bien classée.
C'était éligible.
Non, ils étaient éligibles,
mais
ils n'étaient pas bien classés. Cette année, on a repris le classement et, fort heureusement, l'université de Lomé est positionnée à la 131e place sur les 200. Les autres universités que tu as cité, les 3 autres qui sont également éligibles parce qu'ils répondent aux critères, ne sont pas sur la liste des 200 puisque le classement a été fait jusqu'au niveau de 200
les premières 200 meilleures universités de tout le continent africain, tout pays compris.
Et donc ce qui a vraiment favorisé ce classement de l'université de Lomé, il faut pas l'oublier, ce sont les innovations qu'on est en train d'apporter depuis quelques 3 ans, 4 ans, et qui reflètent aujourd'hui cette image d'université pouvant rivaliser avec d'autres universités du continent. Être classé 131e, c'est vrai que on peut dire que ce n'est pas aussi simple. On souhaiterait être à la première place ou être dans les 10
premiers. Ne serait-ce que dans les 50 premiers.
Mais si on vous dit que dans ce classement, l'université de Lomé à la 131e place, mais l'unique université de la Côte d'Ivoire est 163e. Donc, c'est dire que aujourd'hui, il y a des efforts qui se font à l'université de Lomé, puisque les critères d'éligibilité sont, entre autres, être agréé, licencié ou accrédité par l'organisation appropriée liée à l'enseignement supérieur dans chaque pays, offrant au moins 3 ans de licence ou des diplômes de maîtrise ou de doctorat de troisième cycle, et également offrir des cours principalement dans un format d'enseignement traditionnel et non à distance. Et donc, l'université de Lomé répond à ces critères aujourd'hui.
Merci.
Et il y a même des diplômes de master 1, master 2. Hein, et donc, je crois que c'est des efforts qui se font. Et nous disons que si on continue sur cette lancée-là, je crois que dans les années à venir, l'université de Lomé...
Déjà en 2022, aucune université... ne figurait dans les 200 meilleurs. Cette année 2023, l'Université de Lomé est 131e et Kokoroko et son équipe savent déjà qu'ils doivent mieux faire pour les années à venir. Mais juste, c'est ce commentaire du classement Unirank que je retiens. Le classement Unirank qui dit que l'Université de Lomé dispose d'une offre de formation diversifiée dispensée dans des établissements en devenir dont les curricula développés sont en prise directe avec les enjeux et les besoins de la société, faisant de cette dernière un espace de découverte qui interroge le présent autant qu'il construit l'avenir. C'est un commentaire du classement Unirank que l'Union rappelle et que je vous ai relu. Alors, ce classement vient à point nommé parce que, Montessori, nous sommes en pleine vacances. Dans quelques semaines, ça va être la rentrée. Et il n'y a pas longtemps, nous avons parlé du ministère de l'enseignement supérieur avec le professeur Youm Majesté qui avait retenu et publié la liste des universités privées, instituts d'enseignement supérieur qui sont homologués à recevoir des étudiants. Quelques temps après, c'est Kokoroko qui a également fait la même chose pour les écoles primaires et privées. Hein? Pour les écoles privées de tout degré. Alors, ce classement de l'Université de Lomé doit situer les étudiants, nouveaux bacheliers, leurs parents, qu'on peut oser s'inscrire à l'Université de Lomé. Nous l'avons fait, l'Université du Bénin, en son temps, nous ne le regrettons pas. Et puis, de l'Université de Lomé jusqu'aux écoles primaires, chacun devra savoir les écoles habilité à recevoir les étudiants.
Non, mais le problème va être bientôt résolu, dans la mesure où le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé il y a quelques mois. Dans les années à venir, je crois à partir de l'année prochaine ou surprochaine, nous allons assister donc à des examens nationaux en licence, en master. Ça, c'est annoncé. Je crois que vraiment, le projet est très avancé. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est de faire en sorte que, justement, quand on vient d'un institut privé ou qu'on vient d'une université publique, mais que, effectivement, les formations soient, en tout cas, vraiment les mêmes. En économie, par exemple, à l'université de Lomé, qu'est-ce qu'on enseigne? Et en licence ou en master? Et en économie, dans une école comme SGIS et ZAG, etc., qu'est-ce qu'on enseigne? Il faut, à un moment donné, justement, que les formations soient vraiment presque au même niveau.
Harmonisées.
Et ça, je crois que, bon, d'ici bientôt, de toute façon, si vous me posez la question, je suis très heureux de ce classement parce que moi-même, je suis un récent produit de l'Université de Lomé. Et je suis très fier de voir que l'Université de Lomé caracole comme ça dans les classements. C'est tant mieux. Mais vous savez très bien que toute université, tout temple du savoir a besoin du débat et du vrai débat, des idées contradictoires pour avancer. Parce que j'en parle parce que ce classement a été réalisé au moment où nous savons que l'université de Lomé est agitée par tant de contradictions, par tant de etc. Régulièrement, on assiste justement à des voix discordantes qui s'élèvent, qui etc. Épingle.
Mais moi, c'est le propre du milieu universitaire.
Ce que je veux dire, Kokoroko, que ce soit au ministère ou que ce soit au niveau du ministère de l'enseignement, des enseignements primaires et secondaires, que ce soit au niveau de l'université, ça se voit que c'est un homme plein d'idées, c'est un homme qui se bat, qui fait beaucoup de choses. Mais je suis, moi, mon vrai reproche, je veux, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a fait de telle année jusqu'à telle année? Quels sont les résultats, etc., etc. Au-delà, justement, par exemple, des prises de décision régulières auxquelles on assiste, etc., etc. À un moment donné, il faut s'arrêter pour faire un bilan et montrer à l'opinion, justement, et ça, ça peut clouer le bec, justement, aux voix discordantes. Montrer à tout le monde que, voilà, notre bilan, sur une telle période, on a réussi à faire si, les résultats sont là. Sinon, mais c'est notre université à nous, mais il faut applaudir.
Merci. Alors, ce que tu dis là, ça me rappelle un ministère qui avait été créé tout nouvellement, enfin, il y a quelques années, et puis supprimé depuis. Il s'agissait, ou bien il s'agit toujours, du ministère de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. C'était Kakonou Boupo, mais même sorti du gouvernement, vous me direz, si nous n'avons pas besoin d'un tel ministère. Je rappelle, c'est le ministère de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Tout le débat que nous menons ici sur toutes les évaluations, disons, les initiatives du gouvernement, tous les projets du ministère du développement à la base, tous les projets du ministère de l'agriculture, tous les projets du ministère des mines et ceci et cela. Alors, si l'État togolais procédait à une évaluation sans complaisance de ses programmes et projets, est-ce qu'on n'en tirerait pas des leçons pour mieux rebondir? Il est 12 heures.
Pas seulement des leçons.
Ah, il est 12 heures passées de 1-2 minutes. Nous marquons un arrêt le temps que Thomas adresse les clins d'œil de Canal FM à nos partenaires qui nous soutiennent, c'est important. Et pendant ce temps, les auditeurs se préparent à entrer en ligne. Les deux numéros, vous les connaissez, c'est aussitôt après que les messages publicitaires auront passé.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, nous revenons ici avant que vous entrez en ligne. Nous l'avions annoncé, on n'a pas pu en débattre, mais souffrez que je vous donne cette revue de presse. Il s'agit de ce qui s'est passé hier quand le Togo, l'État togolais, est entré dans le capital de la société panafricaine Askai. À ce sujet, Togo Presse écrit « Consolidation financière et opérationnelle de Askai, l'État togolais, désormais actionnaire de la compagnie, à hauteur de 6 milliards de francs CFA, et que l'Union aussi écrit que sous l'impulsion de Faure Gnassingbé, l'État du Togo entre dans le capital de la compagnie à hauteur de 14,39%, soit 600 000 actions d'une valeur de 10 000 francs CFA que l'État togolais a prise. Donc, à partir d'hier, le Togo à 14,39% du capital de Askai. Alors, Eric, alors une question que quelqu'un te posait il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui va changer avec l'entrée du Togo dans le capital de Askai?
Non, ce qui va changer, c'est que la compagnie Askai, qui avait besoin d'argent frais pour continuer son développement, va justement investir beaucoup plus. Et ça va permettre à l'État togolais aussi d'avoir un peu de ressources à travers le développement de la compagnie Askai. N'oublions pas que Askai a été une idée de notre compatriote, notre aîné, notre père,
Gervais Kofi Bondjedé Diondo, que j'ai redécouvert hier dans le reportage à la TVT. Disons que la carrosserie et le moteur, quoique un peu éprouvés, tiennent le coup pour Diondo. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Sassou.
Oui.
Monsieur Mohamed. Mohamed.
Allô?
Allô, Mohamed.
Bonjour.
Mohamed.
Oui.
Nous vous écoutons, Mohamed.
Mohamed, oui.
Merci beaucoup, Mohamed.
C'est comme mon tonton a dit.
Ah oui, merci. Je suis heureux de vous retrouver.
Je suis très fier de vous.
Merci, merci, Mohamed.
Après 3 semaines, on ne vous entend pas. On a peur.
Oh. Oh non, rassurez-vous, je suis là. J'ai été un peu secoué, mais je reviens.
Bien là.
Merci beaucoup.
C'est le seul innocent.
Merci. Le seul innocent, hein, depuis Jésus et Mahomet. Précision utile. Merci beaucoup, Mohamed.
Merci de nous parler aussi de nos universités.
Oui, c'est important. C'est important. Surtout que vous êtes parents. Vous avez des étudiants ou bien des élèves?
Les étudiants.
Ok.
Un vient sortir, l'autre se prépare à sortir. L'autre va rentrer cette année.
Ok. Vous saurez dans quelle université, vers quelle université, dans quelle filière porteuse diriger vos enfants?
C'est ça, en allemand.
En allemand?
Ouais.
Ok, viel Glück alors. Beaucoup de chance. Bonne chance.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Plutôt choukran à Mohamed. Un autre auditeur.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Johannes.
Johannes.
Bonne arrivée.
Ah, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur.
Moi, ce qui. J'aimerais d'abord vous demander, quand vous parlez de la prouesse de l'athlète burkinabé, vous avez suivi ça aussi, quel média? Parce que ça a rapport avec mon intervention.
Allez-y, Johannes.
Rassurez-vous, ce n'est pas une pique. C'est juste une question.
Non, allez-y.
Voilà, vous avez suivi ça aussi, quel média?
Mais je suis journaliste, j'ai mes sources d'information.
Ok, bon, là, il n'y a pas de souci. Mon problème, c'est-à-dire que je me demande comment est-ce qu'on veut susciter des vocations dans un pays si de tels événements, on n'arrive même pas à retransmettre ça aux jeunes dans le pays. Comment on veut susciter des vocations? Les chaînes de télévision, finalement, à ces occasions-là qu'on se rend compte que, la jeunesse togolaise, je ne sais pas. Après, on s'étonne que les jeunes n'ont pas d'espoir, tout ça là. Ce sont ces petits détails-là qui donnent de l'espoir à la jeunesse. Quelqu'un qui veut faire carrière dans l'athlétisme, ces occasions-là, il a envie de voir ses idoles à la télé. C'est là où les vocations sont suscitées.
Oui.
Mais il n'y en a pas. Est-ce que je suis obligé d'aller faire abonnement 10 000 pour pouvoir suivre ça?
Non, Johannes, vous avez raison. Nos États et nos médias, même privés, sont interpellés pour retransmettre de tels événements. Et comme Johannes le dit, ça va susciter davantage d'engouement, de vocation si les jeunes de nos pays africains suivent les prouesses de leurs idoles en direct. Johannes, je vous donne raison.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. L'auditeur suivant, qui est déjà en ligne, il est là? Oui, oui, bonjour.
Hello, bonjour, monsieur Sass.
Bonjour.
C'est Abdoul.
Abdoul?
Oui.
Ah oui.
Oui, votre thème que vous avez donné, ça parle de la paix.
Oui.
Oui, concernant la paix, bon, moi je vois que la population, surtout la jeunesse, ils n'ont rien à faire. Nous voyons le gouvernement, il crée des emplois, mais il ne crée pas l'emploi concernant l'agriculture et l'élevage. Il n'y a rien. C'est pourquoi la population même n'a pas les moyens pour développer l'agriculture. Le gouvernement est là, il a les moyens, mais il ne fait rien. Les jeunes sont là, ils attendent seulement le recrutement de l'armée. Il y a les petits policiers qui sont nombreux dans la rue. Peut-être ils ont d'autres talents. Ils pouvaient même investi dans d'autres projets, mais ils n'ont pas fait ça. La population est là, elle souffre. Comment on peut avoir la paix en Afrique et au Togo? Merci.
Merci, bonjour. Abdoul. Là où il a raison, c'est que la paix doit être consolidée par des initiatives, des politiques qui donnent espoir à la population, dont surtout les jeunes. Ces scènes où on voit les jeunes Africains aller mourir dans le désert, aller mourir dans l'océan Atlantique, aller mourir dans la mer Méditerranée, parce que se sentant désespérés dans leur pays. C'est une interpellation, Montoso, et nos États ont le devoir de consolider la paix en offrant l'espérance à leur population, surtout la jeunesse.
Nous en avons beaucoup parlé, et c'est le Félix Offoué-Boigny qui disait la paix ce n'est pas
un simple mot, c'est un comportement de tous les jours.
Je disais clairement que malheureusement dans nos comportements, on ne sent pas justement
cette
recherche de la paix. Voilà. Et vous savez très bien que d'ailleurs il y a des citations bien curieuses aujourd'hui qui disent vouloir la paix, c'est préparer la guerre. Mm-hmm. Déjà quand on se met dans cette posture, mais c'est que mais vraiment l'homme, en tout cas, est tout le temps en contradiction, il me semble, avec lui-même, en mettant la guerre comme justement en tout cas le côté pile ou face de la même monnaie, la paix, la guerre, comme...
Merci. Voilà. Alors, la réaction de l'intervention plutôt de notre ami Johannes a suscité une réaction d'une source autorisée qui dit que les droits, par exemple, pour retransmettre le championnat du monde d'athlétisme, c'est à plus d'un milliard de francs CFA, si le Togo voulait le faire. Alors, le Togo, pour le moment, a privilégié le football. C'est une question de moyens. Peut-être que si on n'a plus de moyens, on pourra voir les autres compétitions internationales. Merci à votre source qui nous, à la source qui nous conforte. Oui, l'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Armand.
Armand, oui.
Oui, il faut dire que on peut faire rapidement un rapport entre nos médias, c'est-à-dire la puissance de nos médias, et aussi notre soft power. Aujourd'hui, est-ce que les Africains peuvent dire qu'ils sont en train de, au-delà de promouvoir notre culture, on peut le transformer en un soft power, comme le font les autres. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'Occident, dans les pays occidentaux,
oui.
Aux États-Unis, en Europe.
Oui.
Et nos enfants, quand ils veulent s'identifier, ils te disent que je veux être soit Mbappé, soit... je ne sais pas, les super-héros occidentaux. Mais pourquoi cela? C'est parce qu'on leur a inculqué derrière le soft power de l'autre. Si aujourd'hui nous pouvons nous réapproprier notre culture, on pourrait faire beaucoup, et beaucoup pourraient. Aujourd'hui, nous voyons très bien que les occidentaux cherchent à copier les Japonais. Les mangas japonais et autres, c'est quelque chose qui est un peu... qui vient de la tradition japonaise. Il faut vraiment que nos dirigeants puissent tabler sur ça.
Merci de nous rejoindre. Nos dirigeants, mais nous-mêmes, Eric l'a dit, vous savez, ça commence par l'individu avant que ça devienne l'affaire d'État. L'auditeur suivant, bonjour. Allô?
Oui, bonjour, monsieur Sassou.
Bonjour.
Et je me nomme Benoît Dagoué.
Benoît Dagoué.
Oui.
Oui, heureux de vous écouter.
Et merci, moi aussi, et bonne arrivée.
Merci beaucoup.
Bon, je félicite le ministre, monsieur Koupouko, et durant les 18 ans au pouvoir du chef de l'État, je ne sais pas combien de fois l'université de Lomé a été classée. Donc, comme c'est maintenant, on vient de, sur les 53 états, les 54 états, de l'Afrique, le Togo est 131e dans les universités.
Non, c'est pas un classement par pays, mais un classement par université.
Oui, et c'est ce que j'ai dit.
Oui.
Ok. Bon, je sais, on dit Togolais vient bâtir la cité. Je sais pas, nous allons venir être les disciples du chef de l'État pour Missingué. À chaque fois, on dit sous l'impulsion du chef de l'État, je sais pas si nous-mêmes n'avons pas de vision, mais nous allons nous venir servir ou bien honorer ou bien pratiquer la vision du chef de l'État. Donc il faut que le gouvernement ou bien le chef de l'État nous offre l'opportunité à nous aussi à donner notre vision, notre point de vue, notre talent pour la construction de notre cher pays, le Togo.
Vous avez raison en partie, mais rassurez-vous, ce n'est nullement sous l'impulsion de Faure Gnassingbé que le classement Unirank a honoré l'université de Lomé. Ça, c'est carrément technique. Oui, oui, bonjour.
Je voudrais parler du coup d'État du Niger.
C'est monsieur?
Monsieur Agbodjan.
Monsieur Agbodjan.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Il y a un proverbe africain qui dit, quand vous mettez vos petits doigts entre les dents de quelqu'un, que vous sonnez sa tête, ce qui va vous arriver, vous-même vous le saurez.
J'ai pas bien écouté, s'il vous plaît. Monsieur Agbodjan, voulez-vous rappeler votre proverbe?
Je dis,
oui.
Un proverbe africain dit, quand vous mettez un petit bras entre les dents de quelqu'un,
mm-hmm.
et que vous sonnez sa tête, ce qui va vous arriver, vous-même, vous le saurez.
Uh-huh.
La CDAO dit qu'il va intervenir au Niger, alors que nous avons beaucoup de Togolais là-bas. Moi-même, j'ai vécu là-bas. Et que quand les bouchistes là, ils ont Bazoum avec eux, quand ils voient que la CDAO s'approche, est-ce qu'ils vont laisser Bazoum vivre? Et si ils tuent Bazoum, ce que la CDAO va faire là-bas, là, quel sera l'intérêt?
Mm-hmm.
C'est ce que je pense.
Merci.
Il veut rétablir Bazoum. Et que quand les bouddhistes la voient qu'ils sont dos au mur, ils ne pourront pas laisser Bazoum. Ils vont le tuer encore.
Mm-hmm.
C'est ce que moi je vois. Si la CDAO passait par des négociations, ce serait mieux
mm-hmm.
que de tuer la population nigérienne. Et de surcroît, les Togolais sont là-bas. Beaucoup de nations qui sont là-bas.
Merci.
Si c'est uniquement pour rétablir le Bazoum, ils doivent passer par des négociations pour pouvoir résoudre ce problème.
Merci. Nous l'avons dit que la position interventionniste de la CDAO ne fait nullement l'unanimité, ni même au sein de la conférence des chefs d'État, encore moins dans l'opinion publique. Nous l'avons dit, nous avons souhaité que le bon sens éclaire les stratèges, aussi bien politiques que militaires, pour la voie la plus appropriée de résoudre cette crise au Niger, au meilleur escient. Je rappelle que le coup d'État n'a pas encore fait de victimes jusqu'à ce jour. Et la CDAO, tant quand même a précisé qu'elle ne va pas en guerre contre le peuple nigérien, mais c'est pour restaurer l'ordre démocratique. Hein. Mais laissons le soin aux stratèges politiques et militaires de que cette question-là se résolve au mieux. Thomas, encore un auditeur. Ah, ok, le temps est parti, est fini. Eh bien, Hugues et Montchosor, vous avez suivi nos auditeurs. Ils ont parlé de presque tous les sujets que nous avons abordés. Alors, vous avez chacun une minute pour votre synthèse. Montchosor.
Mais alors, pour la paix, le sujet a intéressé certains intervenants. Et je voudrais renchérir en citant le philosophe allemand Emmanuel Kant qui dit que seule la morale, seule la morale et le droit sont en mesure de créer de vrais cadres, le cadre propice pour la paix. Et vous savez, Emmanuel Kant, il a philosophé, il a beaucoup écrit sur le sujet, il le dit quelque part, seule la morale et le droit restent très très importants pour parvenir à un vrai cadre propice à la paix. Et c'est important, voilà, parce que, encore une fois, nous en parlons tout le temps, de tout temps, les hommes en ont toujours parlé, mais il se trouve, malheureusement, on fait le constat amer selon lequel les hommes ne travaillent pas sérieusement à construire. Mais je voudrais, si tu permets, faire un petit carton vert quand même.
Nous y sommes.
Un petit carton vert à la direction de Radio Canal FM, parce que j'ai été agréablement surpris ce matin. Je me rends compte quand même qu'il y a un travail qui se fait pour accueillir confortablement
les invités.
Et je voudrais donc saluer notre cher confrère Modeste Avoussou.
Modeste Messan Avoussou Akoué.
Très bien.
Oh, c'est gratuit. Eric.
Tout à l'heure, il y a un jeune auditeur qui parlait des policiers qui sont dans la rue et qu'il faut que l'État... Non, on a besoin de ces policiers-là. Vous ne pouvez pas dire que le métier de policier est un saut métier. Non, ça n'existe pas. C'est qu'il faut mettre tout le monde dans de bonnes conditions pour travailler et permettre l'évolution. Vous savez, on dit que la nature fait des hommes semblables, mais c'est la vie qui les rend différents. Et donc, il souhaiterait que l'État s'investisse davantage dans l'agriculture, la pêche et l'élevage. Mm-hmm. Je crois que ce jeune-là, il manque tout simplement d'un peu d'informations. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de projets et parce que nous condamnons aussi l'État de ne pas communiquer assez sur ces projets-là qui devraient normalement orienter la jeunesse vers l'agriculture, la pêche et l'élevage. Il y en a tellement. Aujourd'hui, même quand vous allez au ministère de l'Agriculture, vous allez voir qu'il y a tellement de projets que nous-mêmes, parfois, nous méconnaissons. Et donc, je crois que c'est important pour chaque citoyen de faire quand même ces recherches-là pour pouvoir mieux s'orienter. Je crois que ce jeune-là, il a envie de faire quelque chose, mais il manque forcément de moyens. C'est vrai qu'à chaque fois, nous disons...
Et aussi d'informations, comme tu viens de le dire.
Oui, oui, mais à chaque fois, nous disons que nous manquons de moyens et finalement, on ne fait rien pour. Et donc, je vais plutôt l'inviter à aller chercher. Oui, les gens sont partis de zéro. Aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont. Mais il peut aussi le faire. Il a envie de faire quelque chose, mais il se retrouve dans une situation de précarité et il se dit que c'est la fatalité. Non,
merci, il n'y a pas de Eric. Fatalité. Alors, dans ce sens, pendant que j'étais un peu immobilisé à la maison, j'ai suivi nombre d'éditions de reportages de Radio Le Maine et de la TVT sur les différentes initiatives du Togo en matière de développement. Assainissement, fourniture en eau, électrification, digitale et ceci et beaucoup ceci et cela. Alors c'est peut-être l'occasion d'inviter nos confrères, d'abord les féliciter, la TVT Radio Le Maine pour ses éditions et ses émissions, ses reportages, mais en faire davantage et puis demander au gouvernement par le ministère de la Communication de faire beaucoup plus large communication sur les initiatives. Nous avons parlé de ces projets, de ces programmes, peut-être dont l'État ne fait pas parler assez, oui. Ce qui fait dire qu'il ne fait pas grand-chose ou rien.
Ça, je vais peut-être passer par ce canal-là pour... faire un peu de publicité autour de mon canard, l'Union. Il n'y a pas de parution de l'Union qui ne parle de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage. Nous nous efforçons de mettre à la disposition des populations des articles sur les projets que l'État fait. Aujourd'hui, nous avons parlé, par exemple, du projet PUDU qui se réalise dans les savanes, où il y a l'assainissement de plus de d'une centaine
Merci.
De villages.
Merci. Tu as commencé la publicité. Les auditeurs vont continuer en suivant les articles dans l'Union au jour le jour. Non, c'est pour dire qu'il est l'heure. La technique nous fait signe qu'il faut s'arrêter. Tout simplement, choukran.
Merci.
Comme disait en arabe, c'est merci. Eric Akpelo, les techniciens Thomas et Gérard Anche, comme disent les Tchonkosi, pour dire merci. Et puis, merci aux auditeurs. C'est un bonheur de vivre le Club de la Presse durant 85 minutes. Mais comme c'est l'heure aujourd'hui, nous disons rendez-vous demain, Thomas. En demandant que Dieu le veuille, n'est-ce pas? Merci.
Canal FM. et jamais.